la philosophie de l'Occident et le pouvoir politique et l'idéologie. Et Monsieur André Glucksmann va inscrire sa conférence dans le cadre d'une problématique générale de l'idéologie et de l'utopie dans l'Occident chrétien. Et il est bien évident que cette problématique de l'utopie et de l'idéologie dans le monde chrétien européen ne peut pas ne pas poser d'interrogation à la conscience juive qui, elle, a un tout autre registre de l'aventure utopique et de l'espérance messianique. Monsieur Léon Ashkenazi, qui est venu spécialement de Jérusalem pour ce séminaire sur l'utopie, discutera également des implications de cette problématique avec vous. Et je vous rappelle qu'à la suite de la conférence de M. André Glucksmann, pourquoi l'Occident, il y aura donc un débat sur cette question. Je vous rappelle également, dimanche prochain, à 15h, aura lieu la table ronde consacrée au problème de visage ressemblant de l'aventure utopique, qui sera organisée autour d'une communication préliminaire de M. Joseph Gabel, professeur à l'Université d'Amiens, sur le thème visage de l'utopie, sagesse et folie. Et M. Joseph Gabel, qui fera une communication préliminaire, ouvrira donc une discussion avec l'ensemble des participants sur le problème de l'utopie. Et de cette façon, prendra donc fin le deuxième séminaire de pensée juive de l'année, qui sera suivi au mois de juin prochain par un troisième séminaire qui sera consacré à un aspect très spécifique de la création humaine, qui est la création et la production philosophique à travers l'œuvre d'un penseur et philosophe français d'origine juive, Henri Bergson. Monsieur André Glucksmann, pourquoi l'Occident ?
Bon, le titre est un tout petit peu provocateur, mais je ne le verrai pas trop provocateur. Je voudrais simplement qu'il provoque la réflexion. Est-ce qu'on entend ? Oui ? Bon. Alors d'abord, merci pour la présentation. Quand je dis Occident, une précision malgré tout. Quand je dis Occident, je ne dis pas Occident chrétien. Et je ne dirai jamais cela parce que tout simplement je ne sais pas si quelque chose comme l'Occident chrétien existe. Européen, si on veut, disons Occident philosophique. Pourquoi je dis que l'Occident chrétien, je ne sais pas si cela existe, parce que tout simplement, très concrètement, je ne suis pas du tout sûr que les gens qui ont une religion qui sont juive en Europe soient chrétiens. Je ne suis pas du tout sûr qu'au XXe siècle, il y ait quelque chose qui puisse ressembler à ce que fut la religion chrétienne au Moyen Âge. Je ne suis pas certain qu'au XXe siècle, les gens soient religieux. Je ne pense pas que les gens religieux, au sens où on était religieux au Moyen Âge, puissent faire la guerre de 14, c'est-à-dire massacrer leurs voisins, et si possible jusqu'au dernier. Je ne pense pas que les gens religieux, au sens classique du terme, puissent procéder au génocide des juifs en même temps. Je ne pense pas qu'ils puissent laisser faire, sans tout genre, et dans tout le silence. Donc, je ne suis absolument pas certain que les gens soient religieux autour de moi. Et je le suis d'autant moins qu'on vit actuellement en 1982, qu'il y a un pays qui l'est probablement religieux, au sens ancien. Je dis probablement parce qu'au fond, je n'en suis pas certain du tout. C'est la Pologne. Et que la Pologne, donc, qui est officiellement catholique, est particulièrement, parfaitement abandonnée par le reste de l'Europe, qui était souvent catholique, à moins que l'on soit une autre confession chrétienne. Donc, à mon avis, je crois qu'il faut être très prudent si on veut parler d'Occident chrétien. Alors, pourquoi l'Occident ? pour en rester à cette platitude, à cette considération terre à terre, je dirais que ce qui me m'applique, c'est les déclamations anti-occidentales qu'on entend absolument partout en France et en Occident, et rien comme ici. Puisqu'il y a ailleurs dans le monde une multitude de personnes qui voudraient vivre en Occident à la manière occidentale. Et que les Occidents expliquent en général pour cela. Il y a aussi des gens qui risquent leur vie, qui se donnent une chance sur deux d'ouvrir pour arriver en Occident sur des barques, de l'eau qui vole, qui viennent du Vietnam, qui viennent de l'Haïti. Et je pense qu'il vaudrait, je pense aussi que ce n'est pas réservé à la paysan ou à l'étudiant français de crier contre l'Occident. Je pense aussi que ça existe dans la population juive. Et je pense que c'est un tort. Je pense qu'il suffit de regarder une carte pour s'apercevoir que politiquement, pratiquement, il existe une certaine solidarité entre Israël et l'Occident. Du moins, ce sont un des principaux pays de l'Occident, qui est l'Israël. Je pense qu'il suffit de regarder une carte et de lire son journal pour savoir que il y a un sacré défi lancé à l'Europe occidentale, un défi qui sent le pétrole, un défi qui sent les attentats, et qui consiste à venir lâcher Israël, il pourrait la faire. Comme il y a un autre défi qui dit d'une façon à peu près semblable, lâcher la Pologne et vous aurez la faire. Donc je pense que le rapport à l'Occident est une question essentielle. S'il est assez simple de regarder une carte et de s'apercevoir que pour les Juifs, le rapport Israël et l'Occident est essentiel. On peut aussi continuer toutes les frustrations et s'apercevoir que c'est un rapport aussi interne à la judéité. Puisque, comme tout à l'heure, si les États-Unis sont un des plus grands soutiens d'Israël, ce n'est pas sans hésitation et sans pression d'une partie de la population des États-Unis, qui est une diaspora juive. Donc le rapport d'Israël à l'Occident politique est aussi un rapport interne des Juifs d'Israël aux Juifs de la diaspora. Alors ce que je voudrais indiquer, c'est que ce rapport est aussi un rapport culturel. Ce n'est pas simplement un rapport politique. Un rapport culturel assez dramatique. Et c'est là qu'on retrouvera peut-être le terme utopie. Encore que je vais en employer un autre, qui est celui d'atopie. Alors atopie, c'est un terme grec, comme utopie. Atopie, c'est une négation de A. Et le mot topo veut dire mieux, situation. Le A donc peut se traduire par un situable. A topique, un situable. Je donne simplement ce terme à Jésus parce que je pense. Et quand on examine le rapport de l'Occident et du Juif, on est nécessairement obligé de tomber sur ce terme. Alors, on a dit, ce que je raconte, c'est un rapport avec l'éthique, j'introduis le terme synthétique, et en plus, il y a une. Alors, je vais essayer de situer ça par rapport à mon texte, je ne peux pas le situer par rapport au séminaire. Ça, j'espère que la discussion. Il est là. Dans mon précédent livre, qui s'appelle Notre Attention, j'avais essayé de dessiner en creux une situation qui n'était pas celle du juif, mais qui était celle aux juifs. Faite aux juifs par la philosophie allemande, de la Fichte, et faite aux juifs, à mon avis, pratiquement par le 19e siècle européen et occidental. Et cette situation, précisément, une situation d'adulte. Le juif avait un certain nombre de caractéristiques philosophiques et pratiques. Il était un errant, c'est-à-dire qu'il traversait les frontières. Il était porteur d'une culture, ainsi qu'on disait ça, qui échappait également à l'esprit des peuples à l'intérieur de leurs frontières, à l'esprit national. Et il était manieur d'argent, chose qui, elle aussi, circule à travers les frontières. Et pour, à la fois pour les nationalistes et pour les penseurs de l'idée nationale du 19e siècle, le juif était en quelque sorte exclu de leur quartier. Ce qui circule d'une frontière à l'autre, alors que toute l'Europe occidentale pense en termes de nation comme horizon suprême de l'organisation politique, morale et culturelle de l'humanité. Nous sommes organisés en nation, nous faisons le service militaire, nous avons un suffrage national et nous avons l'éducation nationale. Le juif, là, au moment où on fonde l'instruction publique et l'éducation pour tous, au moment où on fonde les grandes armées qui vont se heurter en 1914, mais qui sont créées au cours du 19e siècle, au moment où on organise la population nationale, le juif se figure d'éléments théoriques. C'est son attitude. Il est un citoyen dans une constellation de nations. Il est un citoyen du 19e siècle dans une constellation de nations. Alors, ce qu'il a resté dans la vie, ça c'est pour le 19e siècle, c'est pour les Français, c'est dans le précédent. Maintenant, pour lui, on peut réfléchir de comment. Je n'ai pas là de définir le juif, je définis une place que le juif occupe, une place qui est faite par les nations en formation et l'organisation. C'est une matrice à l'antisémitisme, cela existe bien. Ce n'est pas simplement une matrice en antisémitisme, c'est une matrice plus générale. Cette place qui est ainsi définie comme l'exclu de la formation nationale, ça peut être le juif qui l'occupe, qui l'occupe en Allemagne. Mais ça peut être d'autres. Il se trouve que tous les génocides du XXe siècle tombent sur des gens qui ne sont pas nécessairement des juifs. Même si Simone Veil, qui est le siècle de la Seconde, en son fils, tient à regarder le terme de génocide pour le peuple juif, a fait une exception concernant ce qui s'est passé au Cambodge. Concernant ce qui s'est passé au Cambodge, il y a quelques années, avec des réactions occidentales, on a vu, ils ne sont pas normalement donc, cette possibilité de génocide excluant les éléments parasitants la construction nationale ne vise pas uniquement les juifs. Et il se trouve que le génocide du XXe siècle vise toujours les gens qui occupent à peu près la même position que les juifs. À savoir l'arménien, celui que quand même un génocide, ce qui s'est passé en Turquie, à la faveur de la Première Guerre mondiale. Les arméniens étaient des gens qui étaient des marchands, faisaient sortir de l'argent, qui étaient un élément étranger dans la jeune nation turque en formation, puisqu'ils avaient leur religion, leur culture et leurs écoles, et qui circulaient au-delà des frontières de la culture turque. puisqu'ils se répandaient en Russie. Donc ils sont dans des situations qui présentent pas mal d'analogies avec celles du juif en Allemagne ou en Europe. Si on prend des choses plus récentes, les diaphrènes au Nigeria sont aussi des gens éclairés qui ont une culture, une religion, c'est-à-dire catholique, et l'amie de l'argent, qui sont des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'il a mis un certain pouvoir dans une république en formation. Si on prend les gros peuples, il y a 80% qui sont 80% chinois, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'expulsion du Vietnam en formation des marchands chinois qui ont une religion, une culture, une activité pratique qui échappe au contrôle de l'État qui organise le marché. Donc on a là une matrice absolument générale où le juif prend sa place, mais elle ne prend pas une place qu'il a seul. Alors il y a une particularité peut-être du juif, c'est que il inquiète plus, peut-être parce qu'il se situait au cœur de l'Occident, ou peut-être parce qu'il entretient un rapport très spécial à l'Occident. Rappel, qu'il y a eu l'art juif, qui était tout simplement l'art moderne, le judaïsme. Il y a eu la psychologie, il y a eu Einstein, science juive, etc., etc. Alors, je me demande si ce qui fait la particularité du juif, ce n'est pas qu'il a été plus massacré qu'un autre, dans sa situation statistique, puis surtout des disponibilités de la part du féminin, mais c'est qu'il a entretenu un rapport assez intime à l'Occident pour montrer être un élément qui non seulement est déphasé, non seulement est intituable, mais est proprement occidental. Car enfin, si on regarde un peu ce que c'est que l'Occident, c'est aux yeux du tiers-monde, aux yeux du politique, aux yeux du critique, comme le dit Daniel Peur, c'est l'univers de la culture, la science, l'aliment de l'argent, le développement de la culture. Et je trouve que le juif a particulièrement participé à ces questions des sols. Mais alors, je voudrais donc introduire un rapport, cette fois-ci, non pas négatif, mais positif à l'Occident. Car cette exclusion, qui ne vise pas uniquement le juif, mais qui a visé très fortement le juif, cette exclusion, c'était l'exclusion proférée par les États en formation et leurs philosophes. Les nations qui se fermaient sur elles-mêmes et qui excluaient des éléments corps étrangers. Cela dit, l'erreur sera de résumer l'Occident à une constellation de nations fermées sur elles-mêmes, ou bien à une grande nation, un grand camp qui sera dirigé par la plus grande nation. Par exemple, c'est un peu comme cela qu'on a vu le camp américain, ce soit pour. En félicité, du communisme. Peut-être que l'Occident, ce n'est pas une nation ou une addition de nations ou une nation en formation. Peut-être que le juif a précisément pratiqué ce qui échappait à cette réduction nationaliste de la civilisation occidentale, cette réduction nationaliste qui fut celle du 19e siècle, et ce qui échappe à la réduction nationaliste, c'est tout ce qui réapparaît aujourd'hui comme élément transnational. Le transnational, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes aux juristes actuellement. Ce sont des réalités comme ça qui ne sont pas enfermables à l'intérieur d'une frontière, ni administrable par une sorte de super-État qui serait par exemple l'ONU. Un exemple, il y a le multinational, il y a ce qui est dénoncé à la télévision comme capitale à patrie. C'est-à-dire qu'il y a des flux financiers qui sont totalement non maîtrisés. Il y a une crise monétaire qui dure depuis 1960, qui sont nullement maîtrisés, ni à Washington, ni par le Fonds monétaire international, et encore moins évidemment à Paris, Londres ou Genève. Ceci pour la réalité la plus équivalente, la plus dure. Mais il y a d'autres flux qui ne sont pas des flux financiers et qui sont aussi des réalités transnationales. Il y a par exemple la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture occidentale? Ce n'est pas la culture française, ce n'est pas la culture américaine, ce n'est pas cela. C'est quelque chose qui circule. Et là, on trouve tout à coup que précisément, les juifs, ce n'est pas simplement les gens qui ont été exclus par les civilisations, enfin les cultures nationalistes du XIXe siècle, mais ce sont des gens qui, au XIXe comme au XXe siècle, se sont employés à faire vivre cette réalité transnationale, culturelle, de l'Occident. Parce qu'enfin, quand on dénonce aujourd'hui en France le cinéma américain comme venant envahir ce cher cinéma français, qui se porte tellement bien et tellement captivant, il ne faudra quand même pas oublier que l'essentiel du cinéma américain vient d'Europe. Que les plus grands metteurs en scène américains, les inventeurs du cinéma américain, ce sont des Européens, parmi eux pas mal de Juifs. Que, y compris, pas simplement le grand art, pense par exemple à Fritz Lang, Janowicz, mais également une superproduction immédiate. C'est une invention européenne, souvent juive, c'est ça. Qu'on appelle la civilisation occidentale, ce sont des réalités transnationales. Hollywood, c'est quand même une annexe de Vienne. Ou de Berlin. Et les inventeurs de la monopolique, même en tout, c'est quand même, pour la plupart, récemment, expulsés d'Europe par le sachet. Donc il y a là des réalités transnationales, qui ne sont pas simplement les plus financiers, mais qui sont aussi bien les plus culturel. Et pour ne prendre qu'un auteur, prenez Kafka. Kafka, c'est quoi? C'est un auteur tchèque, un auteur allemand, un auteur juif, yiddish. Alors on dit, c'est de la littérature mineure. Alors ça peut se voir que c'est de la littérature transnationale. C'est que toutes les catégories du 19e siècle consistant à dire il y a un sol, donc il y a une culture, donc il y a une âme nationale, donc finalement il y a des livres. Ça vient avec Kafka. Mais ces réalités transnationales, ce ne sont pas simplement des choses qu'on admire, qu'on est musée, qu'on est sur ces réalités transnationales, c'est ce qui n'arrête pas de bouleverser la carte des nations. On pourrait dire que les réalités transnationales, c'est complètement utopique, c'est du film, c'est de l'argent qu'on n'arrive pas à saisir, que tous les États, ces euro-dollars qui circulent, qu'aucun État n'arrive à maîtriser, qu'aucune institution internationale n'arrive à maîtriser. On pourrait dire que ce sont des réalités parfaitement utopiques. C'est soit du papier, soit les rêves, c'est pas du transport, c'est de la spéculation, dans le sens du terme. Mais peut-être que c'est l'inverse, c'est vrai. Peut-être que l'utopie, à mon avis, l'utopie, c'est précisément la nation. L'utopie, c'est précisément les frontières. L'utopie, c'est précisément la vie autonome d'un peuple à l'intérieur de cette frontière. L'utopie, c'est précisément l'économie fermée. L'utopie, c'est la culture fermée sur elle-même. L'utopie, c'est la défense de la chanson française. Peut-être que précisément la réalité nullement utopique, c'est Kafka. À preuve que ce qui bouleverse la carte de l'Europe, ce sont des choses comme Kafka. À preuve que la révolte de Prague en 68, qui a amené l'invasion de la Tchécoslovaquie par toutes les armées du pacte de Varsovie, c'est au nom de Kafka. Autant qu'on s'en souvienne. Alors, ce que je dirais, c'est que la pratique
transnationales, des flux financiers, des flux culturels, etc. C'est la pratique, tout à coup, extrêmement explosive, extrêmement bouleversante, qui a modifié la carte du monde au XXe siècle, c'est la pratique de la toki. C'est la pratique des gens qui n'étaient pas enfermés dans les frontières, qui circulaient. Et ça se vérifie sur une carte, car si vous voulez regarder les grandes découvertes spirituelles du XXe siècle, eh bien, Einstein était à Genève, l'île internationale, Freud était à Vienne, l'île multi-occidentale, etc. Bref, la culture occidentale n'a pas arrêté de circuler et il y a tout, évidemment, une part énorme. D'où la nécessité de définir l'Occident de façon positive. Absolument pas historique et en quelque sorte ignoble, qu'on les accuse de n'avoir pas résisté. Qu'on les accuse de n'avoir pas prévu, c'est vrai, ils n'ont pas prévu, mais ils n'ont pas prévu et personne n'a prévu, côté des populations européennes, ce qu'allait faire Hitler, ni les Français, ni les Anglais, etc. Ils n'ont pas résisté en fait, puisque la première insurrection populaire en Europe occupée, la pure insurrection de l'Occident. Maintenant, si on veut regarder de près, c'est là que j'en viens finir. L'historique des révoltes dans les Occident, c'est quand même un peu compliqué. Et on s'aperçoit que les meneurs, les gens qui étaient des gens qui voient arriver derrière, pense qu'il faut rester parce qu'il y a un débat. Par exemple, ça a la difficulté, puisque vu les dangers, c'est toujours à la fin de la communauté. Les gens, lorsqu'ils organisent, ils préparent intellectuellement, idéologiquement, naturellement, une insurrection. Ce sont des gens organisés. C'est une idée. Ils sont organisés de deux façons. Soit unis, c'est-à-dire partis, socialistes, soit sûrs. Alors évidemment, thank you.